Ainsi, à toutes les tortures de cœur que Madame Claës avait supportées depuis 2 ans, dont chacune s'ajoutait à l'autre et accroissait la douleur du moment de toutes les douleurs passées, se joignit une crainte affreuse, incessante, qui lui rendait l'avenir épouvantable. Les femmes ont des pressentiments dont la justesse tient du prodige. Pourquoi, en général, tremblent-elles plus qu'elles n'espèrent quand il se lie des intérêts de la vie? Pourquoi n'ont-elles de foi que pour les grandes idées de l'avenir religieux? Pourquoi devinent-elles si habilement les catastrophes de fortune ou les crises de nos destinées? Peut-être le sentiment qui les unit à l'homme qu'elles aiment leur en fait-il admirablement peser les forces, estimer les facultés, connaître les goûts, les passions, les vices, les vertus. La perpétuelle étude de ces causes, en présence desquelles elles se trouvent sans cesse, leur donne sans doute la fatale puissance d'en prévoir les effets dans toutes les situations possibles. Ce qu'elles voient du présent leur fait juger l'avenir avec une habileté naturellement expliquée par la perfection de leur système nerveux, qui leur permet de saisir les diagnostics les plus légers de la pensée et des sentiments. Tout en elles vibrent à l'unisson des grandes commotions morales. Où elles sentent, où elles voient. Or, quoique séparée de son mari depuis 2 ans, Madame Claës pressentait la perte de sa fortune. Elle avait apprécié la fougue réfléchie, l'inaltérable constance de Balthazar. S'il était vrai qu'il cherchait à faire de l'or, il devait jeter avec une parfaite insensibilité son dernier morceau de pain dans son creuset, mais que cherchait-il? Jusque-là, le sentiment maternel et l'amour conjugal s'étaient si bien confondus dans le cœur de cette femme que jamais ses enfants, également aimés d'elle et de son mari, ne s'étaient interposés entre eux. Mais tout à coup, elle fut parfois plus mère qu'elle n'était épouse, quoiqu'elle fût plus souvent épouse que mère. Et néanmoins, quelque disposée qu'elle pût être à sacrifier sa fortune, et même ses enfants au bonheur de celui qu'il avait choisi, aimé, adoré, et pour qui elle s'était encore la seule femme qu'il eût au monde, les remords que lui causait la faiblesse de son amour maternel la jetaient en d'horribles alternatives. Ainsi, comme femme, elle souffrait dans son cœur, comme mère, elle souffrait dans ses enfants, et comme chrétienne, elle souffrait pour tous. Elle se taisait et contenait ses cruels orages dans son âme. Son mari, seul arbitre du sort de sa famille, était le maître d'en régler à son gré la destinée. Il n'en devait compte qu'à Dieu. D'ailleurs, pouvait-elle lui reprocher l'emploi de sa fortune, après le désintéressement dont il avait fait preuve pendant 10 années de mariage? Était-elle juge de ses desseins? Mais sa conscience, d'accord avec le sentiment et les lois, lui disait que les parents étaient les dépositaires de la fortune et n'avaient pas le droit d'aliéner le bonheur matériel de leurs enfants. Pour ne point résoudre ces hautes questions, elle aimait mieux fermer les yeux, suivant l'habitude des gens qui refusent de voir l'abîme au fond duquel ils savent devoir rouler. Depuis 6 mois, son mari ne lui avait plus remis d'argent pour la dépense de la maison. Elle fit vendre secrètement à Paris les riches parures de diamants que son frère lui avait données au jour de son mariage et introduisit la plus stricte économie dans sa maison. Elle renvoya la gouvernante de ses enfants et même la nourrice de Jean. Jadis, le luxe des voitures était ignoré de la bourgeoisie, à la fois si humble dans ses mœurs, si fière dans ses sentiments. Rien n'avait donc été prévu dans la maison Claës pour cette invention moderne. Balthazar était obligé d'avoir son écurie et sa remise dans une maison en face de la sienne. Ses occupations ne lui permettaient plus de surveiller cette partie du ménage qui regarde essentiellement les hommes. Madame Claës supprima la dépense onéreuse des équipages et des gens que son isolement rendait inutile. Et malgré la bonté de ses raisons, elle n'essaya point de colorer ses réformes par des prétextes. Jusqu'à présent, les faits avaient démenti ses paroles, et le silence était désormais ce qui convenait le mieux. Le changement du train des Claës n'était pas justifiable dans un pays où, comme en Hollande, quiconque dépense tout son revenu passe pour un fou. Seulement, comme sa fille aînée Marguerite allait avoir 16 ans, Joséphine parut vouloir lui faire faire une belle alliance et la placer dans le monde comme il convenait à une fille alliée au Molina, au Van der Stromtemnink et au Casa Real. Quelques jours avant celui pendant lequel commence cette histoire, l'argent des diamants était épuisé. Ce même jour, à 3 heures, en conduisant ses enfants à Vêpres, Madame Claës avait rencontré Pierre Quint, qui venait la voir et qui l'accompagna jusqu'à Saint-Pierre, en causant à voix basse sur sa situation. « Ma cousine, dit-il, oh, je ne saurais, sans manquer à l'amitié qui m'attache à votre famille, vous cacher le péril où vous êtes et ne pas vous prier d'en conférer avec votre mari. Qui peut, si ce n'est vous, l'arrêter sur le bord de l'abîme où vous marchez ? Les revenus des biens hypothéqués ne suivent point à payer les intérêts des sommes empruntées. Ainsi, vous êtes aujourd'hui sans aucun revenu. Si vous coupiez les bois que vous possédez, ce serait vous enlever la seule chance de salut qui vous restera dans l'avenir. Mon cousin Balthazar est en ce moment débiteur d'une somme de 30 000 francs à la maison Prétèse et Chivreville de Paris. Et avec quoi les paierez-vous ? Avec quoi vivrez-vous ? Et que deviendrez-vous si Claës continue à demander des réactifs, des verreries, des piles de Volta et autres brimborions ? Toute votre fortune, moins la maison et le mobilier, s'est dissipée en gaz et en charbon. Quand il a été question avant-hier d'hypothéquer sa maison, savez-vous quelle a été la réponse de Claës ? Diable ! Voilà depuis 3 ans la première trace de raison qu'il est donnée. Madame Claës pressa douloureusement le bras de Pierre Quint, leva les yeux au ciel et dit « Gardez-nous le secret !» Malgré sa piété, la pauvre femme, anéantie par ses paroles d'une clarté foudroyante, ne put prier. Elle resta sur sa chaise entre ses enfants, ouvrit son paroissien et n'en tourna pas un feuillet. Elle était tombée dans une contemplation aussi absorbante que l'étaient les méditations de son mari. L'honneur espagnol, la probité flamande, résonnaient dans son âme d'une voix aussi puissante que celle de l'orgue. La ruine de ses enfants était consommée. Entre eux et l'honneur de leur père, il ne fallait plus hésiter. La nécessité d'une lutte prochaine entre elle et son mari l'épouvantait. Il était à ses yeux si grand, si imposant, que la seule perspective de sa colère l'agitait autant que l'idée de la majesté divine. Elle allait donc sortir de cette constante submission dans laquelle elle était saintement demeurée de comme épouse. L'intérêt de ses enfants l'obligerait à contrarier dans ses goûts un homme qu'elle idolâtrait. Ne faudrait-il pas souvent le ramener à des questions positives, quand il planerait dans les hautes régions de la science, le tirer violemment d'un riant avenir pour le plonger dans ce que la matérialité présente de plus hideux aux artistes et aux grands hommes? Pour elle, Balthazar Claës était un géant de science, un homme gros de gloire. Il ne pouvait l'avoir oublié que pour les plus riches espérances. Puis il était si profondément sensé. Elle l'avait entendu parler avec tant de talent sur les questions de tout genre qu'il devait être sincère en disant qu'il travaillait pour la gloire et la fortune de sa famille. L'amour de cet homme pour sa femme et ses enfants n'était pas seulement immense, il était infini. Ses sentiments n'avaient pu s'abolir. Il s'était sans doute agrandi en se reproduisant sous une autre forme. elle si noble, si généreuse et si cultraintive, allait faire retentir incessamment aux oreilles de ce grand homme le mot argent et le son de l'argent, lui montrer les plaies de la misère, lui faire entendre les cris de la détresse, quand il entendrait les voix mélodieuses de la renommée. Peut-être l'affection que Balthazar avait pour elle s'en diminuerait-elle. Si elle n'avait pas eu d'enfant, elle aurait embrassé courageusement et avec plaisir la destinée nouvelle que lui faisait son mari. Les femmes élevées dans l'opulence sentent promptement le vide que couvrent les jouissances matérielles. Et quand leur cœur, plus fatigué que flétri, leur a fait trouver le bonheur que donne un constant échange de sentiments vrais, elle ne recule point devant une existence médiocre, si elle convient à l'être par lequel elles se savent aimer. Leurs idées, leurs plaisirs sont soumis aux caprices de cette vie en dehors de la leur. Pour elle, le seul avenir redoutable est de le perdre. En ce moment donc, ses enfants séparaient Pépita de sa vraie vie, autant que Balthazar Claës s'était séparé d'elle par la science. Aussi, quand elle fut revenue de vêpres et qu'elle se fut jetée dans sa bergère, renvoya-t-elle ses enfants en réclamant d'eux le plus profond silence. Puis elle fit demander à son mari de venir la voir. Mais quoique le mulcuinier, le vieux valet de chambre, eût insisté pour l'arracher à son laboratoire, Balthazar y était resté. Madame Claës avait donc eu le temps de réfléchir. Et elle aussi demeura songeuse, sans faire attention à l'heure, ni au temps, ni au jour. La pensée de devoir 30 000 francs et de ne pouvoir les payer réveilla les douleurs passées, les joignit à celles du présent et de l'avenir. Cette masse d'intérêts, d'idées, de sensations la trouva trop faible et elle pleura. Quand elle vit entrer Balthazar, dont alors la physionomie lui parut plus terrible, plus absorbée, plus égarée qu'elle ne l'avait jamais été, quand il ne lui répondit pas, elle resta d'abord fascinée par l'immobilité de ce regard blanc et vide, par toutes les idées dévorantes que distillait ce front chauve. Sous le coup de cette impression, elle désira mourir. Et quand elle eut entendu cette voix insouciante exprimant un désir scientifique, au moment où elle avait le cœur écrasé, son courage revint. Elle résolut de lutter contre cette épouvantable puissance qui lui avait ravi un amant, qui avait enlevé à ses enfants un père et à la maison une fortune et à tous le bonheur. Néanmoins, elle ne put réprimer la constante trépidation qui l'agita, car dans toute sa vie, il ne s'était pas rencontré de scène si solennelle. Ce moment terrible ne contenait pas virtuellement son avenir, et le passé ne s'y résumait-il pas tout entier? Maintenant, les gens faibles, les personnes timides ou celles à qui la vivacité de leurs sensations agrandit les moindres difficultés de la vie, les hommes que saisit un tremblement involontaire devant les arbitres de leur destinée peuvent tous concevoir les milliers de pensées qui tournoyèrent dans la tête de cette femme et les sentiments sous le poids desquels son cœur fut comprimé quand son mari se dirigea lentement vers la porte du jardin. La plupart des femmes connaissent les angoisses de l'intime délibération contre laquelle se débattit Madame Claës. Ainsi, celles-mêmes dont le cœur n'a encore été violemment ému que pour déclarer à leur mari quelque excédent de dépenses ou des dettes faites chez la marchande de mode, comprendront combien les battements du cœur s'élargissent alors qu'il s'en va de toute la vie. Une belle femme a de la grâce à se jeter aux pieds de son mari. Elle trouve des ressources dans les poses de la douleur. Tandis que le sentiment de ses défauts physiques augmentait encore les craintes de Madame Claës. Aussi, quand elle vit Balthazar près de sortir, son premier mouvement fut-il bien de s'élancer vers lui. Mais une cruelle pensée réprima son élan. Elle allait se mettre debout devant lui. Ne devait-elle pas paraître ridicule à un homme qui, n'étant plus soumis aux fascinations de l'amour, pourrait voir juste? Joséphine eût volontiers tout perdu, fortune et enfant, plutôt que d'amoindrir sa puissance de femme. Elle voulut écarter toute chance mauvaise dans une heure si solennelle et appela fortement « Balthazar !» Il se retourna machinalement et toussa. Mais sans faire attention à sa femme, il vint cracher dans une de ces petites boîtes carrées placées de distance en distance le long des boiseries, comme dans tous les appartements de la Hollande et de la Belgique. Cet homme, qui ne pensait à personne, n'oubliait jamais les crachoirs, tant cette habitude était invétérée. Pour la pauvre Joséphine, incapable de se rendre compte de cette bizarrerie, le soin constant que son mari prenait du mobilier lui causait toujours une angoisse inouïe. Mais dans ce moment, elle fut si violente qu'elle la jeta hors des bornes et lui fit crier d'un ton plein d'impatience où s'exprimèrent tous ses sentiments blessés. « Mais monsieur, je vous parle !»« Qu'est-ce que cela signifie ?» répondit Balthazar en se retournant vivement et lançant à sa femme un regard où la vie revenait et qui fut pour elle comme un coup de foudre. « Oh, pardon, mon ami !» dit-elle en pâlissant. Elle voulut se lever et lui tendre la main, mais elle retomba sans force. « Je me meurs !» dit-elle d'une voix entrecoupée par des sanglots. À cet aspect, Balthazar eut, comme tous les gens distraits, une vive réaction et devina, pour ainsi dire, le secret de cette crise. Il prit aussitôt Madame Claës dans ses bras, ouvrit la porte qui donnait sur la petite antichambre et franchit si rapidement le vieil escalier de bois que la robe de sa femme ayant accroché une gueule des tarasques qui formaient des balustres, il en resta un lait entier arraché à grand bruit. Il donna, pour l'ouvrir, un coup de pied à la porte du vestibule commun à leurs appartements, mais il trouva la chambre de sa femme fermée. Il posa doucement Joséphine sur un fauteuil en se disant « Bon Dieu, mais où est la clé ?»« Merci, mon ami, » répondit Madame Claës en ouvrant les yeux. « Voici la première fois depuis bien longtemps que je me suis sentie si près de ton cœur. » « Bon Dieu !» cria Claës, « la clé ! Voici nos gens !» Joséphine lui fit signe de prendre la clé qui était attachée à un ruban le long de sa poche. Après avoir ouvert la porte, Balthazar jeta sa femme sur un canapé, sortit pour empêcher ces gens effrayés de monter en leur donnant l'ordre de promptement servir le dîner, et vint avec empressement retrouver sa femme. « Mais qu'as-tu, ma chère vie ? » dit-il en s'asseyant près d'elle et lui prenant la main qu'il baisa. « Mais je n'ai plus rien, » répondit-elle. « Non, je ne souffre plus. Seulement, je voudrais avoir la puissance de Dieu pour mettre à tes pieds tout l'or de la terre. »« Et pourquoi de l'or ? » demanda-t-il. Et il attira sa femme sur lui, la pressa et la baisa de nouveau sur le front. « Mais ne me donnes-tu pas de plus grande richesse en m'aimant comme tu m'aimes, chère et précieuse créature ?» reprit-il. « Oh, mon Balthazar, pourquoi ne dissiperais-tu pas les angoisses de notre vie à tous, comme tu chasses par ta voix le chagrin de mon cœur ? Enfin, je le vois, tu es toujours le même. Mais de quelles angoisses parles-tu, ma chère ? « Mais nous sommes ruinés, mon ami. »« Ruinés ? » répéta-t-il. Il se mit à sourire, caressa la main de sa femme en la tenant dans les siennes, et dit d'une voix douce, qui depuis longtemps ne s'était pas fait entendre, « Mais demain, mon ange, notre fortune sera peut-être sans bornes. Hier, en cherchant des secrets bien plus importants, je crois avoir trouvé le moyen de cristalliser le carbone, la substance du diamant. Oh, ma chère femme, demain dans quelques jours, tu me pardonneras mes distractions. Oh, il paraît que je suis distrait, quelquefois. Ne t'ai-je pas brusqué tout à l'heure? Oh, sois indulgente pour un homme qui n'a jamais cessé de penser à toi, dont les travaux sont tout pleins de toi, de nous. Assez, assez, dit-elle. Nous causerons de tout cela ce soir, mon ami. Je souffrais par trop de douleur, maintenant je souffre par trop de plaisir. Elle ne s'attendait pas à revoir cette figure animée par un sentiment aussi tendre. Pour elle, qui l'était jadis, à entendre cette voix, toujours aussi douce qu'autrefois, et à retrouver tout ce qu'elle croyait avoir perdu. « Ce soir, reprit-il, je veux bien, nous causerons. Si je m'absorbais dans quelques méditations, rappelle-toi cette promesse. Oui, ce soir, je veux quitter mes calculs, mes travaux, et me plonger dans toutes les joies de la famille, dans les voluptés du cœur, car, Pépita, oh, j'en ai besoin, j'en ai soif. Tu me diras ce que tu cherches, Balthazar? Mais, ma pauvre enfant, tu ne comprendrais rien. Tu crois, mon ami? Voici près de 4 mois que j'étudie la chimie pour pouvoir en causer avec toi. J'ai lu Fourcroix, Lavoisier, Chaptal, Nollet, Rouelle, Berthollet, Gay-Lussac, Spallanzani, Leeuwenboek, Galvani, Volta, et enfin tous les livres relatifs à la science que tu adores. Ben, tu peux me dire tes secrets. « Oh, mais tu es un ange !» s'écria Balthazar en tombant sur le genou de sa femme et versant des pleurs d'attendrissement qui la firent tressaillir. « Mais nous nous comprendrons en tout !»« Ah, dit-elle, je me jetterai dans le feu de l'enfer qui attise les fourneaux pour entendre ce mot de ta bouche et pour te voir ainsi. » En entendant le pas de sa fille dans l'antichambre, elle s'y élança vivement. « Que voulez-vous, Marguerite ?» dit-elle à sa fille aînée. « Ma chère mère, Monsieur Pierrequin vient d'arriver. S'il reste à dîner, il faudrait du linge et vous avez oublié d'en donner ce matin. » Madame Claës tira de sa poche un trousseau de petites clés, les remit à sa fille, en lui désignant les armoires en bois des îles qui tapissaient cette antichambre et lui dit « Ma fille, prenez à droite dans les services grains d'orge. Puisque mon cher Balthazar me revient aujourd'hui, rends-le-moi tout entier, » dit-elle en rentrant et donnant à sa physionomie une expression de douce malice. « Mon ami, va chez toi. Fais-moi la grâce de t'habiller et nous avions Pierrequin à dîner. Voyons, quitte ces habits déchirés. Tiens, mais vois ces taches. » N'est-ce pas de l'acide muriatique ou sulfurique qui a bordé de jaune tous ces trous? Alors, rajeunis-toi, je vais renvoyer Mulquinier quand j'aurai changé de robe. Balthazar voulut passer dans sa chambre par la porte de communication, mais il avait oublié qu'elle était fermée de son côté. Il sortit par l'antichambre. Marguerite, mets le linge sur un fauteuil et viens m'habiller. Je veux pas de Martha, dit Madame Claës en appelant sa fille. Balthazar avait pris Marguerite, l'avait tournée vers lui par un mouvement joyeux en lui disant « Bonjour enfant, tu es bien jolie aujourd'hui dans cette robe de mousseline et avec cette ceinture rose. » Puis il la baisa au front et lui serra la main. « Maman, « papa vient de m'embrasser, » dit Marguerite en entrant chez sa mère. « Oh, il paraît bien joyeux, bien heureux. »« Mon enfant, votre père est un bien grand homme. Voilà bientôt 3 ans qu'il travaille pour la gloire et la fortune de sa famille, et il croit avoir atteint le but de ses recherches. Ce jour doit être pour nous tous une belle fête. »« Ma chère maman, » répondit Marguerite, « nos gens étaient si tristes de le voir enfronné que nous ne serons pas seuls dans la joie. Oh, Mettez donc une autre ceinture, celle-ci est trop fanée. Soit, mais dépêchons-nous, je veux aller parler à Pierre Quint, où est-il? Dans le parloir, et il s'amuse avec Jean. Et où sont Gabriel et Félicie? Je les entends dans le jardin. Eh bien, descendez vite veiller à ce qu'ils n'y cueillent pas de tulipes. Votre père ne les a pas encore vus de cette année, et il pourrait bien avoir les regarder en sortant de table. Dites à Mulquinier de monter à votre père tout ce dont il a besoin pour sa toilette. Quand Marguerite fut sortie, Madame Claes jeta un coup d'œil à ses enfants par les fenêtres de sa chambre qui donnait dans le jardin, et les vit occupés à regarder un de ces insectes à ailes vertes, luisantes et tachetées d'or, vulgairement appelées des couturières. Soyez sages, mes bien-aimés, dit-elle en faisant remonter une partie du vitrage qui était à coulisses et qu'elle arrêta pour aérer sa chambre. Puis elle frappa doucement à la porte de communication pour s'assurer que son mari n'était pas retombé dans quelque distraction. Il ouvrit et elle lui dit d'un accent joyeux en le voyant déshabillé « Tu ne me laisseras pas longtemps seul avec Pierre Quint, n'est-ce pas? Tu me rejoindras promptement. » Et elle se trouva si leste pour descendre qu'en entendant, un étranger n'aurait pas reconnu le pas d'une boiteuse. « Monsieur, en emportant madame, lui dit le valet de chambre qu'elle rencontra dans l'escalier, a déchiré la robe. Oh, ce n'est que méchant bout d'étoffe, mais il a brisé la mâchoire de cette figure et je ne sais pas qui pourra la remettre. » Voilà notre escalier déshonoré, cette robe était si belle. Bah, mon pauvre Mulquinier, ne la fais pas raccommoder, c'est pas un malheur. Mais qu'arrive-t-il donc, se dit Mulquinier, pour que ce soit pas un désastre? Mon maître aurait-il trouvé l'absolu? Bonjour, monsieur Perkin, dit madame Claes en ouvrant la porte du parloir. Le notaire accourut pour donner le bras à sa cousine, mais elle ne prenait jamais que celui de son mari. Elle remercia donc son cousin par un sourire et lui dit « Vous venez peut-être pour les 30 000 francs ?»« Oui, oui, madame, en rentrant chez moi, j'ai reçu une lettre d'avis de la maison Protège et Chiffreville qui a tiré sur M. Claes 6 lettres de change de chacune 5 000 francs. » « Eh bien, n'en parlez pas à Balthazar aujourd'hui, dit-elle. Dînez avec nous. Si par hasard il vous demandait pourquoi vous êtes venu, trouvez quelque prétexte plausible, je vous en prie. Donnez-moi la lettre, je lui parlerai moi-même de cette affaire. »« Oui, oui, tout va bien, reprit-elle en voyant l'étonnement du notaire. Dans quelques mois, mon mari remboursera probablement les sommes qu'il a empruntées. » En entendant cette phrase dite à voix basse, le notaire regarda Mademoiselle Claes qui revenait du jardin, suivie de Gabriel et de Félicie, et dit « Je n'ai jamais vu Mademoiselle Marguerite aussi jolie qu'elle l'est en ce moment. » Madame Claes, qui s'était assise dans sa bergère et avait pris sur ses genoux le petit Jean, leva la tête, regarda sa fille et le notaire, en affectant un air indifférent. Pierre Quint était de taille moyenne, ni gras ni maigre, d'une figure vulgairement belle et qui exprimait une tristesse plus chagrine que mélancolique, une rêverie plus indéterminée que pensive. Il passait pour misanthrope, mais il était trop intéressé, trop grand mangeur pour que son divorce avec le monde fût réel. Son regard habituellement perdu dans le vide, son attitude indifférente, son silence affecté, semblaient accuser de la profondeur et couvraient en réalité le vide et la nullité d'un notaire exclusivement occupé d'intérêts humains, mais qui se trouvait encore assez jeune pour être envieux. S'allier à la maison Claes aurait été pour lui la cause d'un dévouement sans bornes, s'il n'avait pas eu quelques sentiments d'avarice sous-jacent. Il faisait le généreux, mais il savait compter. Aussi, sans se rendre raison à lui-même de ses changements de manière, Ses attentions étaient-elles tranchantes, dures et bourrues, comme le sont en général celles des gens d'affaires, quand Claës lui semblait ruinée? Puis elle devenait affectueuse, coulante et presque servile, quand il soupçonnait quelque heureuse issue aux travaux de son cousin. Tantôt, il voyait en Marguerite Claës une infante de laquelle il était impossible à un simple notaire de province d'approcher. Tantôt, il la considérait comme une pauvre fille trop heureuse s'il daignait en faire sa femme. Il était homme de province et flamand, sans malice. Il ne manquait même ni de dévouement ni de bonté. Mais il avait un naïf égoïsme qui rendait ses qualités incomplètes et des ridicules qui gâtaient sa personne. En ce moment, Madame Claës se souvint du ton bref avec lequel le notaire lui avait parlé sous le porche de l'église Saint-Pierre et remarqua la révolution que sa réponse avait faite dans ses manières. Elle devina le fond de ses pensées et d'un regard perspicace, elle essaya de lire dans l'âme de sa fille pour savoir si elle pensait à son cousin. Mais elle ne vit en elle que la plus parfaite indifférence. Après quelques instants pendant lesquels la conversation roula sur les bruits de la ville, le maître du logis descendit de sa chambre où, depuis un instant, sa femme entendait avec un inexprimable plaisir des bottes criant sur le parquet. Sa démarche, semblable à celle d'un homme jeune et léger, annonçait une complète métamorphose, et l'attente que son apparition causait à Madame Claës fut si vive qu'elle eut peine à contenir un tressaillement quand il descendit l'escalier. Balthazar se montra bientôt dans le costume alors à la mode. Il portait des bottes à revers bien cirés qui laissaient voir le haut d'un bas de soie blanc, une culotte de casimir bleu à boutons d'or, un gilet blanc à fleurs et un frac bleu. Il avait fait sa barbe, peigné ses cheveux, parfumé sa tête, coupé ses ongles et lavé ses mains avec tant de soin qu'il semblait méconnaissable à ceux qu'il avait vus naguère. Au lieu d'un vieillard presque en démence, ses enfants, sa femme et le notaire voyaient un homme de 40 ans, dont la figure affable et polie était pleine de séduction. La fatigue et les souffrances que trahissaient la maigreur des contours et l'adhérence de la peau sur les os avaient même une sorte de grâce. « Bonjour, Pierre Quint, » dit Balthazar Claës. Redevenu père et mari, le chimiste prit son dernier enfant sur les genoux de sa femme et l'éleva en l'air en le faisant rapidement descendre et le relevant alternativement. « Voyez ce petit, » dit-il au notaire. « Oh, une si jolie créature ne vous donne-t-elle pas l'envie de vous marier ?»« Croyez-moi, mon cher, les plaisirs de famille consolent de tout. »« Brrr !» dit-il en enlevant Jean. « Poum !» s'écria-t-il en le mettant à terre. « Broum, poum, broum, poum !» L'enfant riait aux éclats de se voir alternativement en haut du plafond et sur le parquet. La mère détourna les yeux pour ne pas trahir l'émotion que lui causait un jeu si simple en apparence et qui pour elle était toute une révolution domestique. « Voyons comment tu vas ?» dit Balthazar en posant son fils sur le parquet et s'allant jeter dans une bergère. L'enfant courut à son père, attiré par l'éclat des boutons d'or qui attachaient la culotte au-dessus de l'oreille des bottes. « T'es mignon !» dit le père en l'embrassant. « Tu es Claës, tu marches droit. »« Eh bien, Gabriel, comment se porte le père Morillon ?» dit-il à son fils aîné en lui prenant l'oreille et en lui tortillant. « Te défends-tu vaillamment contre les thèmes et les versions? Allez, marches-tu ferme aux mathématiques ?» Puis Balthazar se leva, vint à Pierre Quint et lui dit avec cette affectueuse courtoisie qui le caractérisait. « Mon cher, vous avez peut-être quelque chose à me demander ?» Il lui donna le bras et l'entraîna dans le jardin en ajoutant « Venez voir mes tulipes !» Madame Claës regarda son mari pendant qu'il sortait et ne sut pas contenir sa joie en le revoyant si jeune, si affable, si bien lui-même. Elle se leva, prit sa fille par la taille et l'embrassa en disant « Mais ma chère Marguerite, mon enfant chéri, oh, je t'aime encore mieux aujourd'hui que de coutume. Il y avait bien longtemps que je n'avais vu mon père si aimable, » répondit-elle. Le muletinier vint annoncer que le dîner était servi. Pour éviter que Pierre Quint lui offrît le bras, Madame Claës prit celui de Balthazar et toute la famille passa dans la salle à manger. Cette pièce, dont le plafond se composait de poutres apparentes, mais enjolivées par des peintures lavées et rafraîchies tous les ans, était garnie de hauts dressoirs en chêne, sur les tablettes desquelles se voyaient les plus curieuses pièces de la vaisselle patrimoniale. Les parois étaient tapissées de cuir violet, sur lequel avaient été imprimés en trait d'or des sujets de chasse. Au-dessus des dressoirs, çà et là, brillaient soigneusement disposées des plumes d'oiseaux curieux et des coquillages rares. Les chaises n'avaient pas été changées depuis le commencement du XVIe siècle et offraient cette forme carrée, ces colonnes torses et ce petit dossier garni d'une étoffe à franges dont la mode fut si répandue que Raphaël l'a illustré dans son tableau appelé « La Vierge à la chaise ». Le bois en était devenu noir, mais les clous dorés reluisaient comme s'ils eussent été neufs, et les étoffes, soigneusement renouvelées, étaient d'une couleur rouge admirable. La Flandre revivait là tout entière, avec ses innovations espagnoles. Sur la table, les carafes, les flacons, avaient cet air respectable que leur donnent les ventres arrondis du galbe antique. Les verres étaient bien, ces vieux verres hauts sur pattes qui se voient dans tous les tableaux de l'école hollandaise ou flamande. La vaisselle en grès, fornée de figures coloriées à la manière de Bernard de Palissy, sortait de la fabrique anglaise de Weldgould. L'argenterie était massive, à pans carrés, à bosses pleines, véritable argenterie de famille, dont les pièces, toutes différentes de ciselure, de mode, de forme, attestaient les commencements du bien-être et les progrès de la fortune de Claës. Les serviettes avaient des franges, mode tout espagnole. Quant au linge, chacun doit penser que chez les Claës, le point d'honneur consistait à en posséder de magnifiques. Ce service, cette argenterie, était destinée à l'usage journalier de la famille. La maison de devant, où se donnaient les fêtes, avait son luxe particulier, dont les merveilles, réservées pour les jours de gala, leur imprimaient cette solennité qui n'existe plus quand les choses sont déconsidérées, pour ainsi dire, par un usage habituel. Dans le quartier de derrière, tout était marqué au coin d'une naïveté patriarcale. Enfin, détail délicieux, une vigne courait en dehors le long des fenêtres que les pampres bordaient de toutes parts. « Vous restez fidèle aux traditions, madame, » dit Pierre Quint en relevant une assiette de cette soupe d'eau thym dans laquelle les cuisinières flamandes ou hollandaises mettent de petites boules de viande roulées et mêlées à des tranches de pain grillé. Voici le potage du dimanche, en usage chez nos pères. Oh, votre maison et celle de mon oncle des Raquets sont les seules où l'on retrouve cette soupe historique dans les Pays-Bas. Ah, pardon, le vieux monsieur Savaron de Savarus l'a fait encore orgueilleusement servir à Tournai chez lui, mais partout ailleurs, oh, la vieille Flandre s'en va. Maintenant, les meubles se fabriquent à la grecque. On n'aperçoit partout que casques, boucliers, lances et faisceaux. Chacun rebâtit sa maison, vend ses vieux meubles, refond son argenterie, ou la troque contre la porcelaine de Sèvres, qu'une vaut ni le vieux Saxe, ni les chinoiseries. Oh, moi, je suis flamand dans l'âme. Aussi mon cœur saigne-t-il en voyant les chaudronniers acheter pour le prix du bois ou du métal nos beaux meubles incrustés de cuivre ou d'étain. Mais l'état social veut changer de peau, je crois. n'y a pas jusqu'au procédé de l'art qu'ils se perdent. Quand il faut que tout aille vite, rien ne peut être consciencieusement fait. Pendant mon dernier voyage à Paris, on m'a mené voir les peintures exposées au Louvre. Ma parole d'honneur, mais c'est des écrans que ces toiles sans air, sans profondeur, où les peintres craignent de mettre de la couleur. Et ils veulent, dit-on, renverser notre vieille école, au loin. Nos anciens peintres, répondit Balthazar, étudiaient les diverses combinaisons et la résistance des couleurs en les soumettant à l'action du soleil et de la pluie. Mais oui, vous avez raison, aujourd'hui les ressources matérielles de l'art sont moins cultivées que jamais. Madame Claes n'écoutait pas la conversation. En entendant dire au notaire que les services de porcelaine étaient à la mode, elle avait aussitôt conçu la lumineuse idée de vendre la pesante argenterie provenue de la succession de son frère, espérant ainsi pouvoir acquitter les 30 000 francs dus par son mari. « Oh !» disait Balthazar au notaire, quand Madame Claes se remit à la conversation. « Oh, l'on s'occupe de mes travaux à Douai ?»« Oui, » répondit Pierre Quint. « Puis chacun se demande à quoi vous dépensez tant d'argent. » Hier, j'entendais Monsieur le Premier Président déplorer qu'un homme de votre sorte chercha la pierre philosophale. Alors je me suis alors permis de répondre que vous étiez trop instruit pour ne pas savoir que c'était se mesurer avec l'impossible, trop chrétien pour croire l'emporter sur Dieu et, comme tous les Claes, trop bon calculateur pour changer votre argent contre de la poudre à perlimpinpin. Néanmoins, je vous avouerai que j'ai partagé les regrets que cause votre retraite à toute la société. Vous n'êtes vraiment plus de la ville. En vérité, madame, vous eussiez été ravie si vous aviez pu entendre les éloges que chacun s'est plu à faire de vous et de M. Claes. Vous avez agi comme un bon parent, repoussant des imputations dont le moindre mal serait de me rendre ridicule, répondit Balthazar. Allez, douaisiez me croire ruiné. Eh bien, mon cher Pierre Quint, dans 2 mois, je donnerai, pour célébrer l'anniversaire de mon mariage, une fête dont la magnificence me rendra l'estime que nos chers compatriotes accordent aux écus. Madame Claes rougit fortement. Depuis 2 ans, cet anniversaire avait été oublié. Semblable à ces fous qui ont des moments pendant lesquels leurs facultés brillent d'un éclat inusité, jamais Balthazar n'avait été si spirituel dans sa tendresse. Il se montra plein d'attention pour ses enfants et sa conversation fut séduisante de grâce, d'esprit et d'à propos. Ce retour de la paternité, absente depuis si longtemps, était certes la plus belle fête qu'il put donner à sa femme, pour qui sa parole et son regard avaient repris cette constante sympathie d'expression qui se sent de cœur à cœur et qui prouve une délicieuse identité de sentiment. Le vieux mulquinier paraissait se rajeunir. Il allait et venait avec une allégresse insolite causée par l'accomplissement de ses secrètes espérances. Le changement si soudainement opéré dans les manières de son maître était encore plus significatif pour lui que pour Madame Claes. Là où la famille voyait le bonheur, le valet de chambre voyait une fortune. En aidant Balthazar dans ses manipulations, il en avait épousé la folie. Soit qu'il eût saisi la portée de ses recherches dans les explications qui échappaient au chimiste quand le but se reculait sous ses mains, soit que le penchant inné chez l'homme pour l'imitation lui fait adopter les idées de celui dans l'atmosphère duquel il vivait, le mulquinier avait conçu pour son maître un sentiment superstitieux, mêlé de terreur, d'admiration et d'égoïsme. Le laboratoire était pour lui ce qu'est pour le peuple un bureau de loterie, l'espoir organisé. Chaque soir, il se couchait en se disant « Ah, demain peut-être nagerons-nous dans l'or. Et le lendemain, il se réveillait avec une foi toujours aussi vive que la veille. Son nom indiquait une origine toute flamande. Jadis, les gens du peuple n'étaient connus que par un sobriquet tiré de leur profession, de leur pays, de leur conformation physique ou de leur qualité morale. Ce sobriquet devenait le nom de la famille bourgeoise qu'ils fondaient lors de leur affranchissement. En Flandre, les marchands de fil de velin se nommaient des mulquiniers, et telle était sans doute la profession de l'homme qui, parmi les ancêtres du vieux Valais, passa de l'été de serf à celui de bourgeois, jusqu'à ce que les malheurs inconnus rendissent le petit-fils du mulquinier à son primitif état de serf plus la solde. L'histoire de la Flandre, de son fil et de son commerce, se résumait donc en ce vieux domestique, souvent appelé par euphonie mulquinier. Son caractère et sa physionomie ne manquaient pas d'originalité. Sa figure, de forme triangulaire, était large, haute et couturée par une petite vérole qui lui avait donné de fantastiques apparences, en y laissant une multitude de linéaments blancs et brillants. Maigre et d'une taille élevée, il avait une démarche grave, mystérieuse. Ses petits yeux, orangés comme la perruque jaune et lisse qu'il avait sur la tête, ne jetaient que des regards obliques. Son extérieur était donc en harmonie avec le sentiment de curiosité qu'il excitait. Sa qualité de préparateur initié au secret de son maître, sur les travaux duquel il gardait le silence, l'investissait d'un charme. Les habitants de la rue de Paris le regardaient passer avec un intérêt mêlé de crainte, car il avait des réponses sibylliques et toujours grosses de trésors. Fier d'être nécessaire à son maître, il exerçait sur ses camarades une sorte d'autorité tracassière dont il profitait pour lui-même en obtenant de ses concessions qui le rendaient à moitié maître au logis. Au rebours des domestiques flamands, qui sont extrêmement attachés à la maison, il n'avait d'affection que pour Balthazar. Si quelque chagrin affligeait Madame Claes ou si quelque événement favorable arrivait dans la famille, il mangeait son pain beurré et buvait sa bière avec son flegme habituel. Le dîner fini, Madame Claes proposa de prendre le café dans le jardin, devant le buisson de tulipes qui en ornait le milieu. Les pots de terre dans lesquels étaient les tulipes, dont les noms se lisaient sur des ardoises gravées, avaient été enterrés et disposés de manière à former une pyramide au sommet de laquelle s'élevait une tulipe gueule de dragon que Balthazar possédait seul. Cette fleur, nommée Tulipa Claesiana, réunissait les sept couleurs et ses longues échancrures semblait doré sur les bords. Le père de Balthazar, qui en avait plusieurs fois refusé 10 000 florins, prenait de si grandes précautions pour qu'on ne pût en voler une seule graine, qu'il la gardait dans le parloir et passait souvent des journées entières à la contempler. La tige était énorme, bien droite, ferme, d'un admirable vert. Les proportions de la plante se trouvaient en harmonie avec le calice, dont les couleurs se distinguaient par cette brillante netteté qui donnait jadis tant de prix à ces fleurs fastueuses. « Oh, mais voilà pour 30 ou 40 000 francs de tulipes !» dit le notaire, en regardant alternativement sa cousine et le buisson aux 1 000 couleurs. Madame Claes était trop enthousiasmée par l'aspect de ces fleurs que les rayons du soleil couchant faisaient ressembler à des pierreries, pour bien saisir le sens de l'observation notariale. « Mais à quoi cela sert-il ? » reprit le notaire en s'adressant à Balthazar. « Vous devriez les vendre. »« Bon, ai-je donc besoin d'argent ?» répondit Claes en faisant le geste d'un homme à qui 40 000 francs semblaient être peu de chose. Il y eut un moment de silence pendant lequel les enfants firent plusieurs exclamations.
« Oh, vois donc, maman, celle-là ! Oh, qu'en voilà une belle !
Comment celle-ci se nomme-t-elle ? » ?»«
Quel abîme pour la raison humaine ! » s'écria Balthazar en levant les mains et les joignant par un geste désespéré.
Une combinaison d'hydrogène et d'oxygène fait surgir par ces dosages différents dans un même milieu et d'un même principe ces couleurs qui constituent chacune un résultat différent. »
Sa femme entendait bien les termes de cette proposition, qui fut trop rapidement énoncée pour qu'elle la conçût entièrement. Balthazar songea qu'elle avait étudié sa science favorite, et lui dit, en lui faisant un signe mystérieux,
« Ah, tu comprendrais, tu ne saurais pas encore ce que je veux dire. »
Et il parut retomber dans une de ses méditations qui lui étaient habituelles.
« Ouais, je le crois, » dit Pierre Quin en prenant une tasse de café des mains de Marguerite.
« Chasser le naturel, il revient au galop, »
ajouta-t-il tout bas en s'adressant à Madame Claes.
Vous aurez la bonté, lui parlez vous-même. Le diable ne le tirerait pas de sa contemplation.
En voilà pour jusqu'à demain. » Il dit adieu à Claes, qui feignit de ne pas l'entendre, embrassa le petit Jean que la mère tenait dans ses bras, et après avoir fait une profonde salutation, il se retira. Lorsque la porte d'entrée retentit dans ce ferment, Balthazar saisit sa femme par la taille et dissipa l'inquiétude que pouvait lui donner sa feinte rêverie en lui disant à l'oreille
« Je savais bien comment faire pour le renvoyer !»
Madame Claes tourna la tête vers son mari sans avoir honte de lui montrer les larmes qui lui vinrent aux yeux. Elles étaient si douces. Puis elle s'appuya le front sur l'épaule de Balthazar et laissa glisser Jean à terre.
« Rentrons au parloir !» dit-elle après une pause.
Pendant toute la soirée, Balthazar fut d'une gaieté presque folle. Il inventa 1000 jeux pour ses enfants et joua si bien pour son propre compte qu'il ne s'aperçut pas de 2 ou 3 absences que fit sa femme. Vers 9h30, lorsque Jean fut couché, quand Marguerite revint au parloir après avoir aidé sa sœur Félicie à se déshabiller, elle trouva sa mère assise dans la grande bergère et son père qui causait avec elle en lui tendant la main. Elle craignit de troubler ses parents et paraissait vouloir se retirer dans leur parler, mais Madame Claes s'en aperçut et lui dit
« Venez, Marguerite, venez, ma chère enfant !»
Puis elle l'attira vers elle et la baisa bieusement au front en ajoutant
« Emportez votre livre dans votre chambre et couchez-vous de bonne heure. »«
Bonsoir, ma fille chérie, » dit Balthazar. Marguerite embrassa son père et s'en alla. Claes et sa femme restèrent pendant quelque temps seuls, occupés à regarder les dernières teintes du crépuscule qui mouraient dans les feuillages du jardin déjà devenus noirs et dont les découpures se voyaient à peine dans la lueur. Quand il fit presque nuit, Balthazar dit à sa femme d'une voix émue « Montons !» Longtemps avant que les mœurs anglaises n'eussent consacré la chambre d'une femme comme un lieu sacré, celle d'une Flamande était impénétrable. Les bonnes ménagères de ce pays n'en faisaient pas un apparat de vertu, mais une habitude contractée dès l'enfance, une superstition domestique qui rendait une chambre à coucher un délicieux sanctuaire où l'on respirait les sentiments tendres, où le simple s'unissait à tout ce que la vie sociale a de plus doux et de plus sacré. Dans la position particulière où se trouvait Madame Claes, toute femme aurait voulu rassembler autour d'elle les choses les plus élégantes, mais elle l'avait fait avec un goût exquis, sachant qu'elle influence l'aspect de ce qui nous entoure exerce sur les sentiments. Chez une jolie créature, c'était du luxe. Chez elle, c'était une nécessité. Elle avait compris la portée de ces mots,
On se fait, jolie femme. Maxime, qui dirigeait toutes les actions de la première femme de Napoléon et la rendait souvent fausse, tandis que Madame Claës était toujours naturelle et vraie. Quoique Balthazar connût bien la chambre de sa femme, son oubli des choses matérielles de la vie avait été si complet qu'en y entrant, il éprouva de doux frémissements, comme s'il l'apercevait pour la première fois. La fastueuse gaieté d'une femme triomphante éclatait dans les splendides couleurs des tulipes qui s'élevaient du long cou de gros vases en porcelaine chinoise, habilement disposés, et dans la profusion des lumières dont les effets ne pouvaient se comparer qu'à ceux des plus joyeuses fanfares. La lueur des bougies donnait un éclat harmonieux aux étoffes de soie grise, de lin, dont la monotonie était nuancée par les reflets de l'or sobrement distribués sur quelques objets et par les tons variés des fleurs qui ressemblaient à des gerbes de pierreries. Le secret de ces apprêts, c'était lui, toujours lui. Joséphine ne pouvait pas dire plus éloquemment à Balthazar qu'il était toujours le principe de ses joies et de ses douleurs. L'aspect de cette chambre mettait l'âme dans un délicieux état et chassait toute idée triste pour n'y laisser que le sentiment d'un bonheur égal et pur. L'étoffe de la tenture achetée en Chine jetait cette odeur suave qui pénètre le corps sans le fatiguer. Enfin, les rideaux soigneusement tirés trahissaient un désir de solitude, une intention jalouse de garder les moindres sons de la parole et d'enfermer là les regards de l'époux reconquis. Paré de sa belle chevelure noire, parfaitement lisse et qui retombait de chaque côté de son front comme deux ailes de corbeau, Madame Claës, enveloppée d'un peignoir qui lui montait jusqu'au cou, et que garnissait une longue pèlerine où bouillonnait la dentelle, elle attirait la portière en tapisserie qui ne laissait parvenir aucun bruit du dehors. De là, Joséphine jeta sur son mari, qui s'était assis près de la cheminée, un de ces gais sourires par lesquels une femme spirituelle et dont l'âme vient parfois embellir la figure, s'est exprimé d'irrésistibles espérances. Le charme le plus grand d'une femme consiste dans un appel constant à la générosité de l'homme, dans une gracieuse déclaration de faiblesse par laquelle elle l'enorgueillit et réveille en lui les plus magnifiques sentiments. L'aveu de la faiblesse ne comportait-il pas de magiques séductions? Lorsque les halos de la portière eurent glissé sourdement sur leur tringle de bois, elle se retourna vers son mari, parut vouloir dissimuler en ce moment ses défauts corporels en appuyant la main sur une chaise pour se traîner avec grâce. C'était appelé à son secours, Balthazar, un moment abîmé dans la contemplation de cette tête olivâtre qui se détachait sur ce fond gris, en attirant et satisfaisant le regard, se leva pour prendre sa femme et la porta sur le canapé. C'était bien ce qu'elle voulait. « Tu m'as promis, » dit-elle en lui prenant la main, qu'elle garda entre ses mains électrisantes, « de m'initier au secret de tes recherches. Conviens, mon ami, que je suis digne de le savoir. Puisque j'ai eu le courage d'étudier une science condamnée par l'Église, pour être en état de te comprendre. Mais je suis curieuse, ne me cache rien. Ainsi, raconte-moi par quel hasard, un matin, tu t'es levé soucieux quand la veille je t'avais laissé si heureux. Et c'est pour entendre parler chimie que tu t'es mise avec tant de coquetterie. Mon ami, recevoir une confidence qui me fait entrer plus avant dans ton cœur, n'est-ce pas pour moi le plus grand des plaisirs? N'est-ce pas une entente d'âme qui comprend et engendre toutes les félicités de la vie? Ton amour me revient pur et entier. Je veux savoir quelle idée a été assez puissante pour m'en priver si longtemps. Oui, je suis plus jalouse d'une pensée que de toutes les femmes ensemble. L'amour est immense, mais il n'est pas infini. tandis que la science a des profondeurs sans limites où je saurais te voir aller tout seul. Je déteste tout ce qui peut se mettre entre nous. Si tu obtenais la gloire après laquelle tu cours, j'en serais malheureuse. Ne te donnerait-elle pas de vives jouissances? Moi seul, monsieur, dois être la source de vos plaisirs.
Non, non, oh, ce n'est pas une idée, mon ange, qui m'a jeté dans cette belle voie. Mais un homme.
Un homme? S'écria-t-elle avec terreur.